Depuis le 27 octobre et jusqu'au 30 mars, l'exposition Marseille Artistes Associés explore 30 ans de pratique de l'art contemporain à Marseille.
Focus sur le MAC qui ouvre ses portes à 26 associations artistiques marseillaises. Preuve du dynamisme de l'art contemporain à Marseille, cette exposition semble toutefois soulever de nombreuses contradictions. Une chose est sûre, loin d'être capitale de l'art contemporain, Marseille est en mesure de proposer une grande foire de l'art contemporain. La Grenouille vous propose quelques morceaux choisis d'une visite guidée du MAC en compagnie de Pascal Stowe et Nicolas Féodoroff avant de donner la parole à deux associations présentes, Sextant et Plus et Diem Perdidi.
Donc cette exposition, vous vous souvenez de son titre ?
Non.
Marseille Artistes Associés. Et le sous-titre, enfin la suite, c'est 1977-2007. Donc c'est une exposition qui présente des lieux, enfin qui a donné des espaces à des lieux associatifs, galeries ou groupes d'artistes ou ateliers, afin qu'ils puissent montrer ce qu'ils ont réalisé, quel est leur travail entre 1977 et 2007. Donc on a ici la partie qu'on va traverser très très vite et sans finalement s'y arrêter. C'est une partie documentaire qui concerne des associations, des galeries, des groupes d'artistes qui justement peut-être sont depuis dans les années 80, etc., qui n'existent pas forcément encore, ou qui continuent à avoir une pratique, ou qui sont juste évoqués en tant que lieu existant, d'accord ? Ensuite, les espaces dans lesquels, dans certains desquels on s'arrêtera, sont vraiment des espaces qui ont été dévolus à des structures qui ont choisi de montrer ou certains artistes, ou leur façon de fonctionner, ou leur histoire, hein, et nous on va essayer de voir quelques œuvres à l'intérieur de tout ça. Donc on est vraiment ici dans, non pas un choix d'œuvres d'art contemporain qui auraient été décidées par un conservateur, ce qu'on appelle un commissaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un choix d'œuvres en général pour les expos, mais on est vraiment dans une espèce de carte blanche à des lieux qui ont une pratique quotidienne, on peut dire, de montrer de l'art ou d'en faire. Donc allez, on traverse et on va aller se poser dans un lieu. Voilà. Alors peut-être venez, on va un peu rentrer. Après, je vous laisserai regarder un peu ces objets et l'ensemble de ces choses. Ici, on est dans le lieu qui a décidé d'occuper une structure, qui est une galerie d'ailleurs associative, qui s'appelle SMP. SMP qui est le diminutif, enfin les initiales plutôt, de sol, mur, plafond. Ce qu'ils ont décidé de faire et de montrer au MAC, ce n'est pas le travail d'un artiste, ce n'est pas l'ensemble de leurs expositions présentées comme ça, un peu de façon échantillonnée. C'est la première manifestation qu'ils ont faite pour l'ouverture de leur lieu, qui était une collection anonyme. Cette collection anonyme que vous voyez, qui est certainement augmentée depuis le moment où ils ont ouvert leur lieu, hein, il y a un certain nombre d'années déjà, c'est ce qu'ils nous ont présenté. C'est-à-dire que c'est une galerie d'art, ce sont des artistes, hein, pour la plupart, ou en tout cas des gens qui, à un moment donné, ont une pratique. Et ce qu'ils proposent de faire et de montrer, c'est une collection anonyme. Qu'est-ce qui, là-dedans, peut vous paraître un peu artistique ? Vous, hein, dans votre sensation vraiment propre, pas du tout, essayez de savoir si, à un moment donné, on a une définition de ce que c'est là, parce que ça, ça existe heureusement pas. Qu'est-ce qui pour vous fait que c'est de l'art ou fait que justement ça n'en est pas du tout de votre point de vue ?
Il y a une idée d'exposition.
Il y a l'idée d'exposition. Alors ça, elle est hyper présente. Et tu as raison, je crois qu'il y a dans cette collection l'idée de montrer quelque chose, hein, d'exposer. D'exposer du coup des objets ou des images, des choses fabriquées par des gens ou récupérer des choses sans qualité ou avec des qualités extraordinaires, hein, comme par exemple si on regarde cette espèce d'animal, il est extrêmement bizarre.
Oui, il y a aussi des choses modifiées.
Des choses modifiées et peut-être des choses sans aucune modification. Par exemple, je me dis ça, une photo d'un stade en synthétique dans une cité d'habitation quelconque. C'est certainement un objet plutôt trouvé ou pris dans un bureau, qui a une histoire tout à fait banale quelconque. Et est-ce qu'il devient autre chose là ? Donc vous voyez que eux, pour présenter leur lieu, c'est aussi intéressant, hein, leur façon de se présenter comme lieu d'exposition, d'art, etc., c'est de montrer cette chose anonyme avec des objets un peu au tout venant, des objets qu'on peut trouver dans la rue, qu'on peut connaître, etc. Donc des objets qui ne sont pas du tout exceptionnels, même s'il y en a qui sont très étonnants, très bizarres et voire un peu exceptionnels, mais qui n'ont pas ce côté exceptionnel qu'on peut quelquefois ranger sous le titre d'art avec un très très grand A.
Venez par ici, on va aller dans... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pièce ?
En fait, on voit là l'Italie, la boîte de l'Italie, mm-hmm. La Corse, la Sardaigne, ça fait la carte en fait. Et puis le miroir, ça représente un peu l'eau.
Et la Grèce là-bas, c'est vrai.
Avec la Grèce.
C'est ça, j'ai pas vu.
Donc ça serait la carte de quoi alors ?
De la Méditerranée.
De la Méditerranée.
On a plus l'habitude à l'école de voir des cartes des terres que des mers. On ne va jamais écrire, oui, ça c'est la mer, si, il y a des reliefs sous la mer.
On ne s'est pas attardé sur les creux en fait, on s'est attardé sur le miroir et on n'a pas vu forcément, j'avais pas vu du tout la botte. Je me suis attardé sur la pointe là-bas du miroir, mais pas sur la botte.
Pour retrouver les creux, c'est-à-dire des formes des terres dont tu parlais, effectivement, pour pouvoir retrouver cette carte. Donc on est sur un objet cartographique, effectivement, qui est rarement cartographique et rarement regardé pour lui-même, à savoir un espace entre. On est sur des cartes de pays, de parties émergées. Et là, c'est une carte de la mer, donc en l'occurrence la Méditerranée, effectivement, qui est une carte qui est rarement faite en tant que telle, en tant que carte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... où est-ce qu'on va aller ? On va aller là-bas. On va s'asseoir. Donc vous voyez des chaises. Donc elles sont faites pour ça. On peut s'asseoir et même on est même invité à s'asseoir sur ces sièges. Alors effectivement, tout à l'heure on était sur une pièce de Guillaume Poulain où même si on avait envie de s'asseoir ou de toucher, c'est ne pas s'asseoir, ne pas toucher, hein, selon des procédures assez habituelles dans un musée, c'est on regarde. Le musée dit des Beaux-Arts et puis le musée d'art moderne, c'est le lieu du regard mais rarement du toucher. Et là, on est sur une pièce où on n'est pas forcément sur du toucher, on est aussi sur du regard mais aussi sur de la pratique. Donc, on s'assied. Donc, à partir du moment où on s'assied, cette carte, ça devient quoi ? On s'assied autour. Ça devient une table. Donc, on passe donc, d'une forme de représentation à un usage. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Et, donc quelqu'un parlait de discuter. Si on pense à cette histoire de discuter, cette histoire de carte, on est dans quel domaine ? Plutôt dans la relation effectivement internationale. Là, on est sur une forme qui est très précise, c'est la forme de la Méditerranée. Donc c'est plus une table ronde, c'est un lieu de discussion. Sauf qu'on parle de quoi ? Eh bien, on est rappelé en permanence, d'abord à l'acte de parole au présent, dans l'échange, par le miroir, et puis par ce qui réunit en fait les gens qui sont autour de cette table. Et Pistoletto, qui intitule cette pièce Love Difference, en fait se situe avec cette œuvre-là sur quelque chose qui est entre deux. C'est à la fois une représentation par la carte, c'est une façon de faire image par le miroir, et le miroir c'est un outil pour cet artiste depuis 40 ans. Il utilise le miroir comme machine à image, machine à représentation, et puis machine aussi à mettre en avant cette question du temps. Mais en même temps, c'est un temps qui est... Donc le présent absolu, comme tu as dit tout à l'heure, d'une certaine façon. Et puis en même temps, on est sur la Méditerranée, donc qui nous renvoie aussi à un temps historique, comme espace historique. Et Pistoletto, c'est intéressant à signaler, enfin c'est plus qu'intéressant, est italien. L'Italie, historiquement, l'Italie quand même, c'est assez important sur cet espace justement méditerranéen. Et l'œuvre, cette œuvre-là, donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un artiste que Astérite, qui est une des structures invitées à Marseille Artistes Associés, donc, a utilisé l'espace qui lui était alloué pour faire un atelier d'artiste. Donc là, c'est le 9e atelier d'Astérite avec Noël Raveau qui est en train de travailler. Donc, comme tout artiste dans son atelier, avec là, visiblement, une scie électrique. Une scie ou une perceuse, je ne vois pas trop ce que ça dit ici, si c'est une scie apparemment, donc qu'on a entendu tout à l'heure. Donc on est à la fois sur un objet, une image, sur du présent, sur une mémoire, et sur aussi pourquoi les gens sont réunis autour de ça. Et si vous comptez les sièges tout autour, vous en avez 23. Les 23, c'est le nombre d'États riverains de la Méditerranée, au moment où Pistoletto a fait cette œuvre. Donc on peut imaginer que c'est un lieu, effectivement, un espace de discussion, love difference, donc différence. Love, c'est l'idée de se réunir aussi. Donc avec ces 23 sièges qui sont là, disposés au sol. Et espace d'ailleurs qui n'est pas montré, en tout cas pour cette pièce-là, qui a un écho assez particulier avec la photo qui est derrière moi, qui est une pièce d'Ito Barada, qui est une artiste française d'origine marocaine qui travaille beaucoup sur le désir, d'ailleurs le désir de mouvement, et qui se concentre depuis quelques années sur Tanger, donc qui est vraiment la pointe de l'Afrique en contact, difficile, politiquement très problématique pour les gens qui cherchent à passer justement cette frontière au nord de l'Afrique du Nord. Donc avec le jeu de reflets aussi, c'est pas pour rien que cette pièce-là soit derrière moi. Enfin, ça, c'est un accrochage tout à fait délibéré de la part de la Galerie of Marseille, donc, qui propose l'exposition dans laquelle on se trouve actuellement. Alors on va s'intéresser à cette pièce qui est juste devant vous, donc je vous écoute.
C'est un peu étonnant. Représenter un cœur qui est quand même, c'est quelque chose d'assez naïf, avec des cartouches de fusil. Je trouve ça, c'est intriguant, ouais. Bon, même si ça respecte le rouge, je sais pas, je trouve que c'est en opposition la cartouche et le cœur, quoi.
Je trouve ça marrant.
Marrant.
Ouais. Non, parce que quand, en général, les cartouches comme ça, c'est quand on va se promener dans la colline et tout ça, et qu'il y a la période de la chasse, et qu'on trouve les vieilles cartouches pleines de saleté à l'intérieur, et on se dit, bah tiens, il y a un lapin qui s'est fait choper, ou voilà quoi. Alors, bon. Mais c'est bizarre parce qu'il y en a qui ont des paillettes. Alors, ils se sont pris. Les chasseurs se permettent des petites fantaisies ou...
Pourquoi c'est pas des paillettes ?
Pour la couleur, pour que ça scintille. Bah, je sais pas, on voit le cœur, les paillettes, les... Je sais pas, c'est des choses qui vont bien ensemble en général. Je sais pas, une petite fille qui dessine des petits cœurs partout, qui rêve aux fées avec des paillettes, des...
Si, des petits cœurs avec des petits... Ça fait penser boîte de chocolat, ça fait... Ouais, ça fait penser un peu à...
Ça fait penser à... Ah, ça fait penser effectivement à des bâtons de rouge à lèvres. Alors là, vous êtes rapproché, et peut-être, et de loin, on voit plus les cartouches. On dirait du maquillage. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est du maquillage de loin ? C'est la forme de la disposition au sol de ces pièces-là, effectivement. Donc de loin, on est sur le cœur. Donc quelque chose qui serait d'une espèce de féminité comme ça, un peu, peut-être un peu naïve ou un peu... peut-être un petit peu niaise, enfin quelque chose, une imagerie comme ça, un peu pas très subtile en tout cas. Et puis, donc il y a ces cartouches, et puis on se rapproche et on voit ce que c'est, effectivement. Alors, les cartouches, ça serait plutôt lié à quoi ? À la chasse ? Alors oui, effectivement, quelque chose de l'ordre de la virilité, quelque chose qui est plus masculin. Donc, quelqu'un a dit aussi à la mort. Donc on est sur des systèmes d'opposition. Donc vous avez parlé de masculin et de féminin, vous avez parlé de mort, vous avez parlé de vie. Et ça, en fait, elle l'obtient avec des glissements de sens sur un objet, puis aussi sur des glissements de perception d'objet selon la distance avec laquelle on se trouve, si on est loin, si on est proche. Donc là, on est chez une artiste justement qui joue de ces liens, peut-être qu'on a qu'on ne fait pas, des choses comme ça qui sont disjointes, d'un côté la féminité, de l'autre côté une forme de virilité, la chasse pour les hommes, le rouge à lèvres pour les femmes. Et là, il y a des glissements, des échanges qui se font de l'un à l'autre, simplement par une pièce, par connotation et association d'idées.
C'est une pièce de 2007 de Clara Perrault. Et c'est une pièce dont on était très content qu'elle soit sélectionnée là par Chiara Parisi, qui est donc une curatrice d'origine italienne, puisqu'on considère que ça fait partie des œuvres un petit peu... dans les très belles œuvres que peuvent produire des jeunes artistes, c'est vraiment une pièce qui est très, très simple dans sa mise en œuvre et qui a une efficacité symbolique qui est vraiment encore plus frappante que la mise en œuvre est d'une grande simplicité.
Véronique Collard-Bovy, directrice de l'association Sextant et Plus, qui a beaucoup fait parler d'elle l'été dernier avec son exposition « Enlarge Your Practice ». Pour Marseille Artistes Associés, Sextant et Plus souhaite, je cite, « faire rebondir la proposition qui leur est faite d'occuper un espace de 136,50 m dans l'enceinte du MAC ».
Depuis quelques années, l'institution fait peu de place à la jeune création, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou 15 ans ou plus en avant. Donc c'était l'occasion aussi de montrer que des artistes qui étaient nés autour des années 70 et 80, il y avait vraiment aussi quelque chose qu'on pouvait appeler un renouveau de la scène. Il y a une scène très dynamique. Réagi dans un premier temps à la proposition de la ville de Marseille au musée d'art contemporain dont nous avons eu écho très tard pour proposer un commissariat tel que on a l'habitude de le faire dans nos expositions auparavant. Et donc quand même dans cette notion d'urgence qui était celle qui était donnée par cet emploi du temps très court, comme ça, qui nous était laissé.
C'était quoi, très court ?
On a eu le plus ou moins la proposition, le contexte, au mois de juillet, pour le mois d'octobre, sachant qu'effectivement, au mois d'août, il ne se passe rien et on ne peut pas faire grand-chose. Et que nous, on était quand même très, très pris par cette exposition à la Friche, qui était Enlarge Your Practice. Ça, vraiment, il fallait pouvoir rebondir sur une proposition qui pouvait nous intéresser et puis et en même temps prendre en compte cette dimension temporelle très très courte avec laquelle il fallait jouer, jongler de toute manière. Donc il n'était pas question de refuser aussi cette proposition. Parce que pour beaucoup d'artistes et jeunes artistes qui travaillent, exposer dans une institution, ça a beaucoup de sens, c'est important. Et donc on avait très envie quand même de pouvoir répondre à cet appel. Et donc en se renseignant un petit peu sur ce qui avait été fait comme protocole d'exposition un peu partout, on a très vite sélectionné une idée de commissariat d'un curateur qui s'appelle Jens Hoffman et qui avait été invité à Los Angeles pour découvrir la scène de Los Angeles et qui avait dit « Écoutez, je suis très très pris, je viendrai au moment même où l'exposition débutera et je ferai ma sélection, je ferai mon tour des ateliers, mon tour des œuvres pendant la durée de l'expo. » Et donc cette idée qu'une expo se construit au moment même où elle a lieu était quelque chose qui nous intéressait parce que c'était la manière dont on pouvait se dire qu'on allait être opérant et efficace, pas forcément avant, mais pendant, quoi. Voilà. Et Jens Hoffman avait fait une proposition où, grosso modo, c'était tous les soirs vernissage. C'est-à-dire qu'il passait dans des ateliers et puis il sélectionnait une œuvre qui venait se compiler à ce qu'il avait déjà choisi. Et comme ça, l'exposition se constituait au fil du temps. Donc on a un petit peu réadapté ce protocole d'exposition à notre contexte, qui était que donc chaque structure allait présenter soit un ensemble rétrospectif, soit un ensemble prospectif, soit son team, entre guillemets, d'artistes avec lequel ils ont l'usage de travailler. Et là aussi, on a essayé de penser différemment notre intervention, c'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser uniquement sur les 20-25 artistes du territoire PACA avec lequel, ou marseillais hein, plus précisément pour ça, avec lequel on a l'habitude de travailler, on allait ouvrir le champ à un appel d'offres qui concernait à peu près 40-45 jeunes artistes de Marseille, quitte à solliciter des artistes qui travaillaient avec d'autres structures qui étaient présentes également au MAC. Voilà, donc d'un peu casser ces clivages entre associations, voilà, chacun son pool d'artistes, voilà, on a tous travaillé comme ça, et puis on n'arrive pas à trop se rencontrer forcément sur en tout cas la création. Donc on avait envie aussi que ce soit l'occasion d'un peu imploser cette idée.
Là, vous êtes en plein dans Marseille Artistes Associés, pour le
voilà,
coup.
Voilà, on a vraiment voilà, envie d'ouvrir et de pas garder, parce que quand même l'architecture la façon dont les choses ont été pensées au MAC, c'était chacun avait son espace, c'est 130 mètres carrés ou 100 mètres carrés ou 80 mètres carrés, c'est comme une espèce de stand quoi. Et donc nous, en explosant un petit peu ce principe, ça nous permettait de déborder et puis aussi de rencontrer d'autres artistes qui, travaillant dans d'autres structures, n'osaient pas venir nous voir.
Et donc c'est vous qui avez transformé cette foire en véritable association. Le titre Marseille Artistes Associés, il n'était pas pensé, enfin, il n'y avait pas vraiment association, c'était plus foire.
Le terme associé était un jeu pour parler des associations, puisqu'elles sont très opérantes sur les territoires de Marseille. Mais pas tant les associations entre elles, c'est-à-dire qu'elles étaient regroupées à cet endroit-là, mais est-ce qu'elles travaillent vraiment efficacement ensemble? Pas forcément.
Qu'est-ce qui est attractif et qu'est-ce qui ne l'est pas pour des artistes, pour des structures qui soutiennent les artistes ici à Marseille?
Ce qui était attractif il y a 5 à 10 ans, l'est beaucoup moins aujourd'hui, puisque ce qui était attractif surtout pour les artistes, c'était leur capacité économique à accéder à un lieu de travail, ce qui aujourd'hui s'est complètement resserré, puisque le foncier a pris une valeur énorme et a plus ou moins retrouvé le prix du marché. Donc, ce qui faisait une des grandes forces de Marseille, c'est un peu étiolé, puisque les choses sont devenues économiquement beaucoup plus dures. Une des volontés de nos structures, c'est d'essayer voilà, de trouver des solutions et d'essayer, entre guillemets, de les inventer pour faire en sorte que ce soit toujours possible de faire pour un artiste sur ce territoire-là, malgré ces nouvelles difficultés. Voilà. Et puis, d'un autre côté aussi, je vois ce qui pouvait se passer avec des artistes qui étaient structurellement installés ici depuis 10 ans, 15 ans. C'est aussi très largement amoindri en termes de revenus, en termes de possibilités d'exposition. Il y a quand même eu une crise, en quelque sorte. Et donc, on essayait de trouver des systèmes pour... non pas pour compenser, mais pour inventer d'autres solutions, pour que les artistes puissent continuer à travailler ici aussi. On est toujours dans la crise, mais tout le monde nous le dit, hein, les indicateurs, même institutionnels, d'ailleurs c'est les premiers à nous le dire, que les choses se durcissent et ne vont pas aller en s'améliorant. Voilà, donc... Après, il y a aussi d'autres choses qui font qu'il peut y avoir des relais. Par exemple, la relance des 1% artistiques, c'est pour moi une chose très importante. Puisque ce qui est très compliqué pour un artiste en province, c'est de vivre en province. C'est de trouver l'économie à son œuvre, c'est de continuer à exister en province. Ils sont très rares, ceux qui arrivent à s'en sortir ici. Voilà. Et donc si l'institution, d'une certaine manière, ne fait plus le relais par le biais des associations créées les artistes, qui grosso modo touchaient des subventions, mais pour faire, si ça n'existe plus, il faut bien trouver d'autres moyens pour que ça continue d'exister. C'est ça la décentralisation, il faut que chaque territoire ait à son identité et à sa façon de fonctionner. Et par la relance du 1%, je trouve que là, il y a quelque chose qui s'est remis en place, qui est très long, qui n'est pas pour tout le monde. Il faut que les artistes se mobilisent autour de ces dossiers qui sont très compliqués à monter. Mais c'est aussi notre manière d'apporter du projet et de l'économie pour les artistes.
Alors le paradoxe, c'est que cette exposition Marseille Artistes Associés, donc le sous-titre c'est 30 ans d'art contemporain à Marseille, se monte au moment où c'est le plus dur pour les artistes contemporains.
Oui, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on est passé de, mais ça on peut faire le bilan, hein, de grandes périodes ici où il y avait Bernard Blisten et Nathalie Arginot avec ses grandes expositions. Puis on arrive à quelque chose qui essaye de se réinventer peut-être, hein. Il ne faut pas jeter la pierre immédiatement. Peut-être qu'il y a la mise en place d'un nouveau fonctionnement institutionnel qui peut avoir son efficace, qui est en train de se conceptualiser au moment où il est en train de se faire. Mais par contre, c'est vrai que le contexte s'est durci et que ça jouait aussi sur cette dimension, c'est-à-dire comment, dans un contexte durci, hop, il y a une porte d'entrée vers l'institution, qu'est-ce que ça signifie ? C'était compliqué, cette question, quoi.
Est-ce que tu trouves que Marseille Artistes Associés raconte, et 30 ans d'art contemporain à Marseille, raconte l'histoire entre l'art contemporain et la ville de Marseille ?
Sur le MAC, je pense pas vraiment. C'est comme une espèce d'état des lieux, vu qu'il y a quand même cette notion de projet juxtaposé. On est chacun les uns à côté des autres, une espèce de compilation, de proposition, dont peut-être celui qui viendrait, qui ne connaît pas le territoire, ne peut pas comprendre ni la justesse, ni l'importance, ni le foisonnement. Enfin, si, il va comprendre le foisonnement, mais est-ce qu'il va entendre autre chose que de multiples propositions qui s'ajoutent les unes aux autres, mais qui ne sont pas coordonnées Ça révèle une chose, c'est qu'à Marseille, il y a un foisonnement. Et que par là même, la ville a laissé toute capacité à des structures de s'inventer et de se créer. Alors, elle a laissé pourquoi ? Enfin, je veux dire, après, il faut chercher peut-être les explications à ça. Mais en tout cas, dans la grande diversité de ce qui est proposé et le nombre, parce que c'est quand même fantastique, il y a un constat qu'on peut faire. C'est cette possibilité à des artistes ou des opérateurs d'inventer un projet de production et de diffusion et de trouver sa possibilité d'exister sur ce territoire-là.
Et comment tu expliques ce dynamisme alors ? La ville a beaucoup soutenu ces structures ?
On peut comparer Marseille et Lyon. Lyon a de grandes institutions. Et donc a dessiné très tôt une politique culturelle en faveur, en direction de l'art contemporain. Et donc a mis en place des outils institutionnels pour aider sa promotion. Autant sur la jeune création, puisqu'ils ont une école incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place vraiment les outils pour l'émergence d'une scène lyonnaise, pour sa promotion, et faire venir aussi des personnalités internationales sur ce territoire-là. Donc il y a vraiment un ensemble d'outils sur ce territoire qui est très fort. À Marseille, il y a le musée d'art contemporain et en tant qu'institution art contemporain, y était associé, alors maintenant c'est très compliqué, les ateliers de la ville, avec une dimension prospective sur plutôt la jeune création et des expos de niveau international. Aujourd'hui, ce projet a tendance à se transformer en autre chose, puisque c'est le château de Servières qui a récupéré le lieu de diffusion. Je crois que c'est une ville qui n'a pas dessiné depuis 10 ans de politique culturelle en direction de l'art contemporain. Donc de fait, par nécessité, il y a eu aussi émergence de petites volontés, de petites structures qui sont devenues, qui ont pris de l'importance aussi et qui ont créé également conjointement au FRAC et au MAC, qui ont créé aussi une véritable programmation en art contemporain.
Donc sans le soutien de la ville, il y a, on voit quand même un énorme dynamisme. Et donc les structures ont réussi à inventer des façons de fonctionner, de produire. Et...
Mais la ville soutient. Enfin, je veux dire, puisque elle donne des subventions, elle soutient, sans... mais elle ne dessine pas un projet. Voilà, elle ne va pas dire, bon, ben maintenant, exit, on va choisir ce gros mammouth, et c'est lui qu'on va financer. Est-ce que à Lyon, on va pas voir autant de structures associatives, puisque les financements publics sont réservés aux institutions. Donc voilà, enfin... On a les avantages de nos inconvénients. Enfin, c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Marseille Artistes Associés, c'est aussi monté dans la perspective de Marseille Capitale de la Culture 2013. Aussi et surtout. Voilà. Donc il faut garder ça en tête. C'est-à-dire que c'est rétrospectif, mais en même temps, c'est prospectif dans le sens où c'est pour aussi démontrer que cette grande diversité, c'est quand même la ville quelque part qui l'a permis, et pour le revendiquer, comme peut-être une politique culturelle.
La ville qui la permet, en même temps, oui, une politique culturelle absente.
Oui, 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 mais qui du coup le revendique, comme peut-être véritable politique culturelle. Voilà, c'est... Mais c'est, on est à un moment qui est charnière et qui peut être intéressant. Mais qui est, pour revenir sur cette notion de crise, qui est un moment de crise hein, pour beaucoup de structures.
Vous êtes le président de l'association Diem Perdidi, qui gère donc la galerie du tableau, rue Sylvabel, dans le 6e à Marseille. Vous exposez au Musée d'art contemporain de Marseille, dans le cadre de Marseille Artistes Associés. Vous pouvez nous présenter un peu Diem Perdidi et la galerie du tableau?
C'est une association qui a dépassé ses 15 ans, depuis déjà pas mal de temps, et qui milite pour la promotion de l'art contemporain, qui défend les artistes, disons, de la région. Et à ce titre, chaque année, nous faisons une quarantaine d'expositions à la Galerie du Tableau et quelques événements extérieurs à l'étranger. Donc chaque année, nous organisons une exposition avec 5 ou 6 artistes de la région, quelquefois en incorporant un artiste étranger justement à ce groupe, ce qui nous vaut d'avoir une assez bonne réputation à l'étranger pour à la fois la qualité des expositions qu'on a pu présenter. Je m'excuse d'être un peu élogieux à mon égard, mais c'est pas ici qu'on en entend beaucoup parler. Cette exposition au Musée d'art contemporain me donne un peu l'occasion de présenter un des aspects de l'association, c'est-à-dire le côté permanent à Marseille. Et j'ai voulu souligner le passage d'artistes importants qui sont venus exposer la Galerie du Tableau, quelquefois de fort loin. J'en ai mis un échantillonnage au MAC. J'ai mis Yann Wallace, Mocéline Pellegrini et Denis Oppenheim, que j'ai présenté pour faire voir l'aspect un peu prestigieux de la chose. Ensuite, j'ai présenté 3 artistes aussi qui sont marseillais, disons, qui vivent à Marseille, qui sont des artistes qu'on connaît bien sur le plan national maintenant, qui sont Sylvie Reynaud, qui sont Frédéric Clavert, qui sont Laurent Septier, j'ai pas tous les noms qui me viennent tout de suite. Il y a également aussi la partie peut-être la plus importante de la de l'activité de la galerie, de très jeunes artistes, en très grand devenir aussi, qui sont Mathieu Abonac et Marion Mahut, qui sont Bertrand Ivanov, qui lui est plus connu, qui est venu s'agrafer un peu chez nous, et Nathalie Tison. Voilà, c'est un échantillonnage sous forme d'exposition collective. Alors pourquoi Marseille ? D'abord parce que je suis marseillais et que je vois pas comment j'aurais pu faire ça ailleurs. C'est-à-dire que c'est parti sur une petite connaissance du milieu que j'avais ici. Et puis, pour avoir une galerie dans une jungle d'autres galeries à Paris, par exemple, c'est très difficile, c'est très onéreux. Il faut avoir beaucoup de courage pour ouvrir une galerie à Paris. Je n'ai pas ce courage. Donc, comme malgré tout, j'ai un peu confiance dans le devenir des collectionneurs marseillais, je pense qu'on peut espérer qu'il y en ait d'autres maintenant qui émergent, qui viennent rejoindre le petit groupe qui existe, paraît-il, à Marseille. Voilà.
Et donc vous disiez c'est être à Paris aurait été beaucoup plus onéreux. C'est ça qui est attractif à Marseille pour une galerie, les loyers peu chers, c'est...
Alors, les loyers peu chers, c'est une légende. Parce que les loyers, autrefois, n'étaient pas chers même. Et donc, permettaient à pas mal d'artistes qui venaient justement d'à peu près toute la France trouver un atelier à Marseille, s'installer à Marseille. Tout le monde pouvait s'installer là. Et il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus s'installer à Marseille du fait de ce phénomène de modicité de loyer et de modicité de vie et d'un climat quand même exceptionnel. Donc tout ça, mis ensemble, a voulu qu'il y ait beaucoup d'artistes. Et justement, c'est un peu la raison d'une galerie comme celle de la galerie du tableau, quoi, qui est de pouvoir donner une chance à tous ces nombreux artistes qui était sur le marché, surtout à ce moment-là, de pouvoir exposer. Quoi. Même si c'était un temps très court, puisque la galerie propose une semaine aux artistes, et pas davantage, depuis bientôt 18 ans. Il faut de l'acharnement, ou disons de la ténacité, quoi, voilà.
Et si les loyers ont augmenté maintenant, qu'est-ce qui fait que vous perdurez ici à Marseille ?
Disons que je continue et que j'ai l'espoir que la persévérance porte ses fruits, quoi, voilà.
Cette exposition OMAC, elle est organisée par la ville. Et la ville la finance ?
La ville, oui, effectivement, doit la financer. Pour l'instant, c'est nous qui supportons les frais de cette exposition. C'est-à-dire que je vais être remboursé de ces frais. Oh, ça va intervenir au mois de février pour la plus grande partie et à la fin de l'exposition pour le reste. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce sont les associations qui ont financé l'exposition du MAC.
Des associations qui pourtant ont un grand besoin de soutien financier.
Oui, je peux vous dire que personnellement, ça met l'association en difficulté. Nous avons des avances bancaires, etc., qui coûtent très cher. Ce qui fait qu'à l'arrivée, cette exposition nous aura coûté quand même assez cher.
Mais en même temps, c'est une belle opportunité.
C'est vrai. C'est une excellente opportunité de montrer qu'il se passe quelque chose à Marseille. Parce que cet état des lieux, on peut dire, on peut, peut dire que ce n'est pas une vraie exposition, mais c'est un vrai état des lieux, c'est-à-dire des lieux d'activité à Marseille, où il se passe quelque chose, il y a des choses qui se passent, du moins, on peut le faire voir, on peut faire voir qu'il y a des artistes importants qui sont présentés ici, il y a des artistes prestigieux qui viennent quelquefois de loin. Et alors, si elle peut paraître disparate, ben c'est pas désagréable. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce que, justement, toutes les activités, toutes formes d'activités peuvent exister et peuvent, malgré tout, cohabiter. Je pense que l'état des lieux est réussi. Voilà. Si on peut voir qu'il y a quand même eu beaucoup de gens pour se battre, pour continuer à vouloir tenir un rôle qui est quelquefois pas très facile. Et bon, c'est tout à l'honneur des participants de cette exposition. Maintenant, je pense qu'il manque quelque chose dans cette exposition, ce sont les ancêtres. Il y en a bien un ou deux, hein, mais je veux dire, peut-être il faudrait savoir que l'art contemporain, ça s'est installé doucement, et peut-être en amont des 30 ans. Déjà, il y avait des gens qui militaient pour un art plus actuel, et il y a longtemps, et ceux-là, on ne peut plus les montrer parce que la plupart ont disparu.
Est-ce qu'on comprend les relations entre l'art contemporain et la ville de Marseille ?
Moi, je ne comprends pas très bien, parce que quand je me promène dans la ville, je ne vois pas tellement de monuments qui soient contemporains. Je déplore que dans les monuments publics majeurs, soit le monument à la paix à la préfecture, qui est un art, pourrait-on dire, mussolinien, où il y aurait le monument aux morts d'Orient, le monument aux péris en mer, tout ça, ce sont de bien piètres réalisations d'une bien vieille époque. Et il y a encore plus vieux lorsqu'on pense à la mauvaise copie de Michel-Ange qui est sur la plage, ou la mauvaise copie de Puget qui est au cours de Siendorf. Ça méritait des monuments beaucoup plus actuels. Et quand je vois la ville jumelle de Marseille-Hombourg, par exemple, qui vient de consacrer un livre à son art public, eh bien on trouve là-dedans des Laurence Weiner, il y a des Richard Serra, il y a des artistes majeurs de notre époque qui sont sur les places de Hambourg. Nous, quand on a eu un Marc d'Issuvero qui a été prêté à la ville, il y a eu des pétitions pour le faire enlever. Il était devant le Mac à l'époque. Le pouce de César, on l'avait fait en 1930 déjà. Et Marseille s'en glorifie, quoi. Il est devant le Mac, très bien. Et c'était un artiste vivant qui l'a fait. J'en suis content rétrospectivement pour César, qui nous a quittés quand même. Mais enfin, César qui a quitté Marseille, dont il était natif, pour aller faire sa carrière à Nice. Voilà, il faut voir qu'à l'époque, un artiste de la qualité de César devait s'exiler.
Justement, c'est ça qui est intéressant, quoi. Vous disiez tout à l'heure aussi, il faut se battre.
Disons qu'il faut avoir l'imagination, vous savez, on parle souvent de ça à propos du pétrole, on dit quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Eh bien là aussi, il faut avoir des idées. C'est-à-dire il faut savoir marcher sur les mains. Quand on n'a pas de moyens, il faut improviser ses moyens, il faut quelquefois les attendre, il faut quelquefois les plaider pour une chose qui paraît évidente. Il faut demander, il faut avoir les chines souples, se plier, aller retourner, demander. Et quelquefois, quand on a la chance, on y arrive, quelquefois... Bien, il faut improviser encore autre chose. Voilà.
Mais c'est paradoxal, puisqu'en même temps, vous disiez, il y a quand même un grand dynamisme. C'est ce qu'on voit quand même à travers cette exposition. Beaucoup de structures qui se sont battues et qui continuent de se battre, qui existent, qui font vivre cet art contemporain à Marseille.
Écoutez, moi, je crois que les premiers qui se battent, ce sont les artistes. Parce que c'est la piétaille, l'infanterie. Hein, ils sont sur place, ils ont beaucoup de difficultés à vivre. Parce que souvent, ils vivent avec des revenus extrêmement faibles, du type RMI, quoi. Eh bien, ils arrivent quand même, je ne sais pas comment ils font, à payer un loyer. Ils arrivent à trouver des ateliers où ils peuvent aller travailler, où ils trouvent de quoi acheter leur matériel. Ils trouvent de quoi... démarcher les galeries exposées, moi je trouve que c'est déjà un petit miracle. Donc si derrière eux on n'a pas à peu près le même dynamisme, c'est-à-dire la même inventivité, je veux dire que ça entraîne aussi la participation des institutions automatiquement. Si les artistes n'étaient pas actifs, si les galeries n'étaient pas actifs, les institutions ne seraient pas actives. Donc cette exposition, tout le monde l'a fait, aussi bien les artistes que les galeristes ou les associations, ou l'institution arrive en bout de course, quoi. Parce que se rendre compte que c'est important de rendre hommage à ces artistes qui vivent ici, qui participent à l'économie ici aussi, parce qu'il faut pas oublier que l'artiste est un consommateur comme un autre, même s'il mange peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre garde quand même, comme il est beaucoup plus difficile de vivre à Marseille depuis quelques années, que les prix des loyers ont grimpé en flèche et que les artistes commencent à mettre dans la balance le fait, si je vis à Marseille, j'ai quel intérêt de plus? Si je veux aller visiter des expositions à Paris, voir des galeries, essayer de trouver un marché ailleurs, il faut que je prenne le TGV. Oui, mais le TGV, c'est pas gratuit. Alors, ils cherchent à aller s'installer à Paris. Je connais des artistes, de très bons jeunes artistes, qui ont choisi de s'installer à Paris.
Donc vous disiez, il faut prendre garde...
Non, il faut prendre garde que le mouvement qui s'est créé à Marseille à un moment donné, justement sur ce phénomène de loyer, etc., qui a amené à Marseille un grand nombre d'artistes qui venaient de très loin, qui venaient de Strasbourg, qui venaient de Rennes, qui venaient de Toulouse, et ça faisait une place forte de l'art contemporain à Marseille. Ils partent maintenant vers d'autres destinations qui sont... beaucoup plus favorable pour eux, quoi, parce que d'une part, Marseille n'a pas les mêmes capacités commerciales que Paris au niveau des galeries. Je veux dire, les galeries de Paris ont un passage, ont une clientèle, alors qu'à Marseille, il n'y a pratiquement pas de passage et pas de clientèle. Donc ça explique très bien le désert. Et il y a des artistes majeurs qui partiront un jour de Marseille pour aller vivre à Paris.
C'était Bernard Place de l'association Diem Père Didi. Sont aussi intervenus dans cette émission Véronique Collard-Bovy de Sextant et Plus et les guides du MAC Nicolas Féodoroff et Pascal Stowe. Marseille Artistes Associés, c'est jusqu'au 30 mars au Musée d'Art Contemporain, mais aussi aux ateliers d'artistes, à la Vieille Charité, au Musée Cantini et au Musée d'Histoire. La Grenouille y consacre une thématique avec la rediffusion de Radiogramme, une émission autour de l'art contemporain tous les jours à 10h, des chroniques quotidiennes à 15h30 et vendredi prochain à 18h, une émission sera consacrée aux nouvelles modalités de diffusion.